Il est 14h01, je suis avec Bruno en studio et c'est l'heure de commencer l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Et du pain sur la planche de bande dessinée, il faut pas l'oublier. Alors, le lancement. Pour son quatrième livre, Gaël Genillet retrouve son goût pour les décors majestueux, les personnages tout en nuances, riches de leurs différences. Minuit passé est un récit fantastique où Gerlin, restaurateur de tableaux, et son fils Nissé, d'une grande maturité, retrouvent le manoir familial. L'ambiance va s'altérer, trois corneilles apparaissent noires et elles scrutent à l'affût de scènes perturbantes. Nous sommes avec Gaëlle Guenillet vers 14h15-14h20 pour qu'elle nous accueille dans le manoir de Gerlin et Nissé, manoir d'Auxerrois. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Démarrons tout de suite avec la réédition augmentée de l'incroyable histoire de la géographie. Lors de la première édition de 2021, c'était intitulé « Les 200 ans d'exploration du monde ». Dans cette réédition qui vient de paraître, « 10 000 ans d'exploration du monde ». Le livre est enrichi d'à peu près 80 pages. Il y en a un peu moins, en fait, sur la pagination, parce que tout le corpus de cartes anciennes qui se trouvait dans la première édition n'a pas été repris dans la seconde. Donc, on va découvrir la notion d'espace dès le commencement du monde. Donc, on passe d'une première édition de 196 pages à une autre de 250 pages. Quatre pages. Les auteurs sont bien sûr les mêmes. Jean-Robert Pitt, qui est l'universitaire géographe de l'étape, et Benoît Sima, qui va participer à la mise en scénario, puisqu'il est aussi scénariste. Et c'est Philippe Bercovici qui s'immerge dans ce type de collection. C'est publié par les Arènes BD. Un autre livre qui, une fois n'est pas coutume, je vais plutôt détailler les réserves. Franquin et moi, entretien avec Nouma Sadoul, est un nouvel essai de la collection Glénat, les cahiers de la bande dessinée. Alors Nouma Sadoul, c'est lui qui avait écrit ce livre qui a fait date, et Franquin créa la gaffe en 1986 et qui a été réédité seulement en 2022. Le projet. Né avec l'avènement de la bande dessinée franco-belge, Nouma Sadoul en a été un lecteur passionné avant même qu'elle entre dans son âge d'or. Acteur et observateur majeur de l'explosion culturelle de la bande dessinée dans les années 70, il en est aujourd'hui un témoin de premier plan. La position de critique et d'essayiste de l'auteur de Tintin et moi, Entretien avec Hergé, le place d'emblée en marge de l'histoire, tout autant que ses amitiés sincères avec Gottlieb, Möbius, Forest et tant d'autres, sur lesquels il revient généreusement à travers ce Franquin et moi. Le projet est effectivement important parce que ce livre, et Franquin créa la gaffe, qui était un très long entretien, qu'il avait fallu pas mal d'années à Nouma Sadoul pour le faire aboutir. Le livre était sorti donc en 1986 et on découvrait un Franquin avec une très grande profondeur, une très grande proximité, où il évoquait notamment ses états dépressifs. Alors, l'entretien que l'autrice Christelle Pissavi-Iverno va avoir avec Nouma Sadoul va revenir en profondeur et en précision sur tout ce qui s'est passé à la fois lors de cet entretien, tout ce que ça peut révéler mais également avec ces autres entretiens, comme par exemple celui avec Hergé, mais aussi Gir Möbius et d'autres qu'on retrouve dans un livre, Nouma Sadoul, Portrait de la plume et au pinceau. Alors, il y a une volonté, et elle est exprimée dans cet essai, de montrer les coulisses de la bande dessinée. Mais alors, les coulisses de la bande dessinée, c'est quoi ? Les coulisses de vues par Sadoul et Franquin écrit à la gaffe, eh bien, c'est vraiment tout ce qui est dans les processus de création et tout ce qui a marqué l'œuvre d'un des génies de la bande dessinée qu'est André Franquin. Par contre, il y a dans la façon de mener l'entretien, dans la façon de dialoguer avec Nouma Sadoul, une façon d'échapper à un point assez essentiel. Parce que finalement, on se retrouve un peu régulièrement avec une sorte de condition de l'entretien où on va avoir des considérations sur le plombier qui vient voir Nouma Sadoul pour des réparations. Il y a aussi tout ce qui va être dans le contexte, les potins, les « Ah mais non, mais là, ils s'entendaient pas bien, non mais là, ça... » Bon, et il y a une sorte d'overdose, une sorte de délire un peu là-dessus qui fait que c'est pas le plus important, toutes ces tensions qu'il y a entre les individus, ça peut être évoqué, mais pas à ce point de détail. Il y a aussi, pour moi, une façon d'aborder un entretien avec un critique qui a marqué l'écriture sur la bande dessinée, qui est donc Nouma Sadoul, parce que on a très peu de passage sur le dessin. C'est évoqué un moment sur le dessin d'Hergé, le dessin de Franquin, mais juste comme une simple mention. Alors que Nouma Sadoul affirme que pour lui, aussi bien Hergé que Franquin sont dans son ADN. Ça a constitué toute une relation à la bande dessinée. Et donc, il y a précisément savoir comment Nouma Sadoul lit le dessin. À un moment est évoquée une scène où, lors des entretiens, Nouma Sadoul va utiliser les albums de Franquin et ils vont discuter sur telle ou telle page, sur les processus de création. Une fois mentionnée cette scène, on n'a pas de détails, alors que là, c'était vraiment l'occasion de montrer ce qu'était et ce qu'est le dessin d'André Franquin. Ce qu'est cette qualité de mise en page, de découpage, ce qu'est vraiment l'écriture dessinée d'André Franquin. Et là, on passe vraiment à côté. Autre chose qui manque, Nouma Sadoul est un metteur en scène de théâtre, d'opéra, il est acteur, il est écrivain, et les simples liens qui sont évoqués entre l'opéra, par exemple, et la bande dessinée, c'est la présence d'un spectacle, La Flûte Enchantée, où on va avoir un personnage d'enfant qui va évoquer Batman, un Schtroumpf, et bon... Pourquoi pas ? Mais ce qui est important dans l'approche visuelle de l'opéra, comme l'approche visuelle de la bande dessinée, la composition des plans que l'on peut avoir entre un tableau d'opéra et une scène de bande dessinée, comment le théâtre peut évoquer la relation au personnage, et là... on n'a pas de précision, on n'a pas toute cette partie qui reste inexplorée. On a cette partie qui reste inexplorée. Donc, ce Franquin et moi, entretien avec Nouma Sadoul de Christelle Pissavi-Hiverneau, passe en grande partie à côté du sujet pour ne rester que sur un ensemble de détails, dans une surabondance de détails qui nous empêchent de vraiment exprimer ce qu'est la bande dessinée, ce qu'est le dessin, ce qu'est le découpage pour un critique comme Nouma Sadoul à travers les entretiens qu'il a fait avec Franquin et Hergé, par exemple. Donc Franquin et moi, entretien avec Nouma Sadoul de Christelle Pissavi-Hiverneau, est publié par les éditions Glénat dans cette nouvelle collection des cahiers de la bande dessinée. Ça, c'est essentiel qu'elle vive, cette collection. Les 240 pages de ce récit sont au prix de 32,50 €. Virgule. Alors, puisqu'il est question de Franquin, une des créations de Franquin exceptionnelle, c'est le Marsupilami. Marsupilami, c'est Marsu Productions, une maison qui a été créée pour gérer ce personnage. Franquin a contrôlé un peu au départ. Et là, il y a le Marsupilami qui va trouver une autre dimension avec Lewis Trondheim et Alexis Nem. Tout le monde connaît le Marsupilami, mais connaissez-vous son arrière-grand-père ? Ben oui, c'est ça, la qualité d'une reprise, c'est aussi de pouvoir créer un contexte où l'écriture va se sentir libre, va pouvoir être d'une pleine efficacité. Eh bien, c'est ce qu'a imaginé Lewis Trondheim avec ce renvoi du Marsupilami, d'un aïeul, donc, à l'époque des conquistadors. Nous sommes au XVIe siècle. Le Marsupilami, eh bien, c'est effectivement la jungle. Donc, on va se retrouver à la fois en pleine jungle, avec des passages dans les galions du XVIe siècle qui sont tout à fait réjouissantes. Donc, il y a une nouvelle galerie de personnages, forcément. Il y a un sens de l'intrigue, et ça, on peut faire confiance à Lewis Trondheim. Il a une capacité à donner de l'intensité, de la gravité même. Puisque le récit commence, eh bien, les pirates sont à la diète, les conquistadors, pardon, sont à la diète. Et bah, ils vont sacrifier un mousse de l'équipage pour pouvoir le manger. Et donc, il y a une tension qui tout de suite s'exprime. Mais heureusement, la terre va être découverte. Ils vont rentrer dans la jungle. Et en fait, le Marsupilami va avoir une sorte de lien spirituel avec José, cet enfant promis à finir comme repas des conquistadors. Eh bien, ce lien qui est à la fois de la superstition ou du surnaturel va être efficacement mis en scène par Lewis Trondheim. Et puis, il y a les ambiances d'Adrien Nesme qui, lui, va utiliser les grandes images, va mettre en scène cette jungle avec une qualité de mise en couleur, des palettes de verre, une intensité. On est assez proche du film d'animation. C'est pas tout à fait ce que l'on a dans les dessins habituels du Marsupilami, mais il y a une ironie qui reste, mais une mise en image qui nous emmène complètement dans cet autre univers du Marsupilami, puisque là, on est au XVIe siècle. Et c'est aussi les conséquences de ce choix narratif d'avoir traité l'aïeul plutôt que d'avoir utilisé le personnage que l'on connaît bien. Donc il y a vraiment ce parti pris graphique et esthétique, ces couleurs directes, cette palette, ces grands formats, ces grandes images, et on a ce lien puissant entre José et le Marsupilami. Et le titre, c'est El Diablo. El Diablo, donc, de Lewis Trondheim pour la partie scénario et Alexis Nem pour la partie dessin. Les 64 pages de ce récit, et c'est un album au format 25-33, sont au prix de 18 euros et le livre a été imprimé en Belgique. On va s'écouter les moustiques et c'est parti. Avant de retrouver Gaël Genier, je voudrais vous parler d'une série qui a marqué beaucoup de lecteurs et qui se décale, qui est une série importante dans le journal Spirou, c'est Jérôme, qu'a Jérôme Bloch d'Alain Daudier. Alors, c'est une série importante, nous sommes au 29e. Il s'intitule Perpétuité. C'est une série qui a démarré avec Le Tendre et Macchio. Et donc, ils ont participé à la création du personnage de Jérôme K. Jérôme Bloch. Alors, Alain Daudier a une grande admiration pour Humphrey Bogart et Robert Mitchum. Et donc, assez naturellement, eh bien, Jérôme K. Jérôme est détective. C'est un détective privé. Alors, ce n'est pas tout à fait le même genre. Hein. Il y a vraiment un grand décalage entre les deux univers. Avec Jérôme K. Jérôme Bloch, on est dans un univers plus quotidien, avec une proximité. Les méchants n'ont pas du tout les mêmes folies, le même spectaculaire, mais par contre, ils sont bien réels. Alors, perpétuité, le récit. Le quotidien d'un détective privé n'est pas de tout repos. Et du repos, justement, Jérôme en manque. Réveillé en pleine nuit par un appel de son fidèle ami Buran, il va découvrir qu'il doit, une fois de plus, enquêter sur une étrange disparition. Celle du doudou de Yasmina, venue accompagner sa maman, femme de ménage, dans une grande maison bourgeoise, et attristée de l'y avoir égarée, Jérôme va rapidement apprendre que l'oncle de Yasmina a lui aussi disparu aux alentours de cette étrange maison. Donc, en fait, on a une intrigue qui est tout à fait solide, qui semble complètement ancrée dans la réalité des questions sociales aujourd'hui, et on est pourtant dans une enquête de quartier, avec cette même intensité, cette nécessité d'être avec les forces de police. Donc, il y a une intelligence dans l'écriture des scénarios où Alain Daudier est capable de donner une puissance et une intensité à son personnage sans avoir recours à des scènes d'action complètement délirantes. On a l'impression qu'ils sont capables d'éliminer toutes les forces du mal. Donc, on va vraiment avoir ce personnage qui a ses maladresses, mais qui est d'une très grande pugnacité. Il y a les réseaux aussi qui sont très présents, parce que Jérôme a pu tisser des liens importants qu'il va solliciter pour résoudre cette enquête où une femme, âgé, ce qu'on peut qualifier de senior, a une vie très, très aisée, Daudier va imaginer aussi ce qu'est la vieillesse dans d'autres conditions. Il y aura un personnage qui est victime d'Alzheimer et que Jérôme va raccompagner quand il le trouve dans son quartier en train d'errer. Il y a en simplement quelques pages, quelques cases, cette capacité à donner des informations assez étonnantes. Et puis, il y a le métier, il y a l'attention, l'efficacité, la recherche d'une lecture, d'une grande fluidité. Et pour ça, Alain Daudier s'est fixé un découpage en 4 bandes, une utilisation très régulière, un gaufrier de 8 cases avec quelques variations, mais une façon de garder cette forme d'image comme un écran de cinéma et de pouvoir ainsi, grâce au cadrage, aux angles de vue, de pouvoir dynamiser la lecture et d'apporter vraiment par la mise en scène, une intensité à la bande dessinée. Et puis il y a cette qualité des dialogues, cette bienveillance qui apparaît, cette ironie qui n'est pas loin, parce que Jérôme, bien, il n'est pas toujours très tendre avec son personnage, mais en tout cas, il en est vraiment. Il a une grande empathie pour lui, et ça se sent dans chacune de ses cases. C'est une série, j'en présente peu, mais elle est vraiment de très grande qualité. Jérôme Bloch, tome 29, Perpétuité, c'est sorti il y a une quinzaine de jours. Les 56 pages de ce récit sont au prix de 13,50 €. Et bien sûr. Minuit passé, le dernier roman graphique de Gaël Genillet s'appuie sur les qualités révélées par Le Jardin Paris, son précédent roman graphique. Une aisance avec les décors élégants, les intérieurs variant avec les lumières, les atmosphères intenses, les personnages campés avec un trait posé, léger, au plus près des gestuels. Des visages où les regards apportent toutes les nuances aux expressions et aux sentiments. Des qualités de dessin héritées non seulement de la formation de Gaël Genillet au film d'animation, mais aussi de la bienveillance de l'autrice pour ses personnages. Minuit passé est un récit fantastique. Le manoir d'Rosera, celui de l'enfance de Guerlain, grand insomniaque, et de son fils Nicé, d'une très grande maturité. Eh bien, dans ce manoir, il y a la présence des anciens à travers leurs tableaux. Gaël Genillet va écarter les poncifs, les attendus de ce type de récit, et elle va garder principalement cette communication avec les esprits à la base de 1 pour non, 2 pour oui, qui caractérise souvent la relation et la communication avec les esprits. L'autrice convoque trois corneilles qui s'invitent dans le quotidien de Guerlain. Une présence tout à la fois oppressante et bienveillante, mise en mouvement par les compétences en animation de Gaël Genillet. Minuit passé est riche de ce qu'il n'est pas. Ambiance perturbante et non fantastique débridée. Richesse d'une relation père-fils émouvante et non peur irrationnelle, souvent grandiloquente. Quotidien éprouvant et non une submersion du surnaturel. La présence des trois corneilles est une trouvaille déterminante. Gaël Genillet pense d'abord son récit en noir et blanc, puis invite les couleurs avec les nuances de ses lumières associées à la puissance de ses noirs. Nous sommes avec Gaël Genillet pour qu'elle nous emmène dans les coulisses de son minuit passé. Alors, Antoine me dit qu'il y a un petit souci. Donc, je vais compléter ce qui est important, c'est lorsqu'on feuillette un tel livre, c'est les atmosphères. On est spécifiquement dans un récit que l'on n'a pas l'habitude de voir, qui ne renvoie pas à d'autres récits fantastiques. Le lien entre Le Jardin Paris et Minuit passé semble évident parce qu'il y a des éléments d'écriture dessinée, de mise en couleur, de mise en scène, la façon de placer simplement les bulles dans l'espace de la double page. Le lien est évident, mais il y a vraiment un profond changement qui apparaît déjà avec cet élément des trois corneilles présente dans le quotidien de Guerlain et de Nicé et qui, par leur représentation, la façon dont elles vont se déplacer dans l'espace du manoir Drosera, va vraiment être d'une très grande qualité. Pardon. Alors Antoine, eh bien, est toujours à la recherche de Gaël. On n'arrive pas donc on va essayer de trouver une solution. Donc je vais continuer cette présentation. Une autre marque, c'est le récit d'ampleur. On avait plus de 220 pages avec Le Jardin Paris, et puis un récit qui fait plus de 200 pages avec Minuit passé. Il y a une nécessité parfois pour développer des atmosphères, pour sortir de ces scènes tellement denses, tellement resserrées, qu'il y a une perte de crédibilité, que les ambiances deviennent même caricaturales. Et là, plus de 200 pages de ce récit sont parfaitement adapté à cette écriture dessinée de Gaël Genillet. Alors, je parle souvent de la régularité, je l'ai encore évoqué avec le dernier album d'Alain Daudier, cette façon de découper. Il y a une utilisation aussi d'une certaine régularité, mais en fait la mise en scène de Gaël Genillet a d'autres partis pris, mais en tout cas le travail sur la composition, sur le cadrage qui est absolument essentiel, eh bien va faire merveille, parce que la fluidité de la lecture, qui est toujours une préoccupation pour beaucoup d'auteurs, même si on peut avoir un côté un peu âpre dans le dessin lui-même, sur des dessins plus expressionnistes, eh bien il y a une façon de mettre en scène qui permet cette très grande fluidité de la lecture. Gaël Genillet est vraiment fidèle à cette écriture, à ce souci d'une fluidité, et notamment elle va permettre de valoriser, de rendre beaucoup plus incandescents les éléments perturbateurs du récit. On va retrouver tout de suite Gaël Genillet.
Oh.
Bonjour Gaël Genillet.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ah ben, c'est un grand plaisir. Alors, j'ai fait une présentation assez poussée de votre livre. Je voudrais tout de suite commencer par un axe d'entretien, puisqu'on avait eu un entretien il y a quelques années.
Oui, tout à fait.
Pour Le Jardin Paris, c'est comment c'est centré. Minuit passé, parce qu'il y aurait pu y avoir des tas de pistes narratives, et on a l'impression que Minuit passé est riche de ces pistes écartées pour se centrer sur cette relation père-fils.
Oui, tout à fait.
Alors, comment s'est passé vos réflexions, vos évolutions d'écriture pour arriver à ce scénario?
Alors, tout d'abord, faut savoir que les personnages, donc le père et le fils, sont arrivés bien avant l'histoire que vous avez entre les mains. En fait, les personnages se sont d'abord écrits d'eux-mêmes et je les dessine depuis maintenant assez longtemps. C'est eux qui m'ont appris les choses que j'aimais dessiner, à savoir les interactions entre les personnages dans des environnements très doux, dans des environnements très tamisés et feutrés. Et en fait, je me suis beaucoup attachée à ces personnages-là et je voulais leur donner une histoire à la hauteur de l'affection que j'avais pour eux. Et en fait, leur écriture est venue bien, bien avant l'histoire qui les entoure, finalement.
Alors, c'est parce qu'on démarre assez vite dans le récit. On rentre dans le manoir de Rosera, manoir où Guerlain a passé son enfance. Comment c'est mis en place cette histoire? Comment arrive, ou avez-vous imaginé l'arrivée des éléments un peu perturbateurs, des décalages avec un quotidien plus serein?
Alors, en fait, il faut savoir que dans le livre, Guerlain est frappé d'insomnie. Et moi, j'ai inventé cette histoire pendant mes insomnies, justement. J'ai eu des mois assez compliqués où j'arrivais absolument pas à dormir. Et du coup, je me suis dit, au lieu de subir ces nuits, au lieu de rester éveillée toute la nuit, bah, je vais me créer un espace mental où je vais juste aller visiter les choses que j'aime bien voir dans la vraie vie. Et j'aime énormément les grands espaces avec beaucoup d'objets très anciens. Pour moi, c'est des endroits qui sont étrangement très réconfortants. Et je me suis d'abord inventé donc ce manoir-là. Et l'arrivée du coup des corneilles, comme je vous l'ai dit précédemment, elle est arrivée avec les personnages. C'était en premier lieu esthétique. J'aime énormément Maupassant, Edgar Allan Poe, et je trouvais que visuellement, ça faisait très, ça rappelait beaucoup les dandys qui se prélassent dans leur manoir à se questionner sur la vie, quelque chose d'assez sombre et romantique. Et en fait, j'ai voulu un peu prendre le contre-pied avec ces personnages en les rendant très doux, en les rendant très bienveillants les uns envers les autres. Et du coup, les corneilles sont arrivées pour également adoucir tout ça, parce que quand on pense à des corneilles dans des contes gothiques, on pense tout de suite à des mauvais présages, à une mauvaise augure. Et moi, j'aimais bien le fait que les corneilles soient là justement pour rassurer le père et puis amuser le fils aussi.
Mais il y a quand même, avec la présence de ces corneilles, des côtés un peu, des côtés inquiétants, parce que... Oui. Leur regard blanc et perçant, il y a cette façon de répondre avec leurs cris aux paroles de Guerlain, leur présence, leur familiarité, présence un peu oppressante.
Oui, moi ce que j'aime bien justement chez elle, c'est qu'on ne sait pas si on doit s'inquiéter ou si on doit être rassuré. Ce sont un petit peu les gardiennes de la maison. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que personne ne s'interroge sur leur présence. On essaye de les faire partir, on voit qu'on n'y arrive pas. Et ben finalement, c'est pas grave, elles vont rester d'elles-mêmes. Et j'aime bien ce côté rassurant, mais visuellement, c'est vrai que ça ne l'est pas. Et peut-être qu'à la lecture, ça peut être un petit peu décontenançant. Mais moi, j'ai vraiment voulu, dans certaines scènes, accentuer leur petit côté malicieux. Il y a certaines scènes où les deux personnages principaux, à savoir Nicé et Guerlain, parlent et qu'en arrière-plan, on voit les corneilles faire des bêtises ou juste gober des objets qu'elles n'auraient pas à manger habituellement. Et j'aime bien ce côté-là, un petit peu effrayant. Mais au final, c'est plutôt la malice qui les gagne.
Gaëlle Chenillet, comment avez-vous écrit cette présence tout au long du récit ? C'est une écriture qui se fait à la fois avec l'écrit et le visuel ? Ou est-ce qu'il y a l'écriture de cette présence de Guerlain et de Nicé dans le manoir ? Et puis... et donc d'un personnage mystérieux, et puis les corneilles qui seraient arrivées tout au long après.
Alors, à la base, l'histoire a été pensée, du moins, en noir et blanc. Et parce que j'aime énormément les films hitchcockiens, et je trouvais que c'était un bel hommage. Et puis finalement, je me suis dit que si je faisais du noir et blanc, j'allais m'ennuyer. Et si j'allais m'ennuyer, le lecteur allait s'ennuyer aussi. Et donc du coup, j'ai vraiment changé de direction. Je crois que la couleur amène beaucoup à l'histoire. Et parfois, je réfléchissais certaines scènes avec les couleurs, justement. Et le fait que ce soit en noir et blanc me bloquait complètement. L'histoire a vraiment également changé de direction. Il y a des scènes qui devaient être beaucoup plus lugubres, beaucoup plus glauques, et je crois que malgré moi, j'y arriverai pas. J'aime trop la douceur, j'aime trop montrer des interactions douces et bienveillantes, et je trouve que dans un contexte comme celui-ci, il me semble pas déjà avoir regardé ou vu des récits qui mêlaient douceur et, on peut dire, horreur, mais même si je ne considère pas cette histoire comme une histoire d'horreur. En tout cas, l'écrire, ça a été quand même pas mal compliqué pour moi. Je crois que je suis quelqu'un de plutôt, je marche beaucoup à l'instinct quand je dois écrire une histoire. J'aime bien faire une scène, et puis 30 pages plus tard, je me dis, ah bah cette scène, elle m'a servi à ça, donc je vais pouvoir faire ça. Quelque chose de très spontané. Pour Minuit passé, je ne pouvais pas être spontanée, parce qu'il y a 3 chapitres, et ces 3 chapitres se répondent de façon très précise. Il y a certaines scènes qu'on peut limite superposer pour que ça fasse sens, sans trop en dévoiler dans l'histoire. Et là, je devais vraiment faire un plan. Je devais me prendre pour une architecte, on va dire. Et je suis contente d'avoir testé ce genre de narration. Mais je crois que je m'essayerai plus à plus de spontanéité. Parce que construire énormément son récit, ça gâche un petit peu. C'est pas que ça gâche, mais ça change beaucoup la façon de concevoir des scènes beaucoup plus spontanées. Et là, j'avais l'impression de ne faire mon récit qu'autour les éléments qui devaient se passer, on va dire.
Et d'un autre côté, Gaëlle Genillet, est-ce que ce n'est pas une façon, en évitant le côté horreur ou fantastique très appuyé, est-ce que ce n'est pas une façon de décrire cette relation entre Guerlain et son fils Nicé et lui donner un espace important dans l'histoire?
Je trouvais effectivement que si on mettait trop de scènes qui faisaient peur ou des scènes angoissantes, j'avais très peur que la relation devienne la relation entre Guerlain et Nicé devienne pesante. J'ai préféré d'abord faire passer cette relation-là avant tout ce qui se passe. J'aimerais bien, après le livre, une fois qu'on a refermé le livre, j'aimerais bien que les lecteurs se disent que ce qui l'a marqué, c'est la relation entre le papa et son fils. Il y a certaines scènes où on voit qu'il s'apporte énormément de choses. Nicé, par son côté très enfantin, très naïf de la situation, qui parfois permet de débloquer en une ou deux phrases ce qui se passe dans la vie d'un adulte. Et le côté un petit peu très interrogateur du côté du père qui comprend pas trop comment son enfant s'exprime, qui cherche encore à connaître un petit peu son fils, mais tout ça dans la curiosité, tout ça dans une sorte de bienveillance, parce qu'on le découvre au fur et à mesure de la lecture, mais quand il était petit, le père ne s'exprimait pas du tout aussi bien que son fils. Et je trouvais que c'était un parallèle assez sympathique à faire entre des enfants qui s'expriment beaucoup, beaucoup, et ceux qui n'y arrivent pas.
La mise en couleur utilise une palette plus resserrée que le Jardin Paris, avec des ambiances où les teintes n'ont pas la même intensité. Il y a une présence d'une lumière qui va beaucoup varier. Vous avez évoqué tout à l'heure votre mise en couleur. À quel moment elle intervient? Est-ce que vous la faites au fur et à mesure? Est-ce que vous anticipez scène par scène? Comment procédez-vous pour concevoir cette mise en couleur?
Alors c'est vraiment au cas par cas. Il y a certaines séquences que je pense vraiment tout de suite en couleur. Ou quand je les imagine, je sais quelle couleur il va y avoir. Et une fois que j'essaie de coucher ces couleurs, ça ne fonctionne pas. Dans ces moments-là, c'est certes assez frustrant, mais ça veut dire que c'est pas ce qu'il fallait faire. Si ça me va pas, s'il y a quelque chose qui cloche, j'hésite pas à complètement refaire une page. Tandis que d'autres scènes où je me disais que ça allait être très compliqué de concevoir la couleur, ça a été très facile et c'est sorti tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Minuit passé, il y a le jour et la nuit. Et il fallait vraiment, vraiment marquer ces deux périodes-là, parce que le récit tourne autour justement de ces cycles jour-nuit. J'avais pas envie que les nuits soient trop angoissantes, soient trop sombres. C'est pour ça que j'essayais toujours de faire quelque chose de peut-être un peu chaleureux, même si les couleurs sont très froides. Pour le jour, comme on est dans un manoir et qu'il y a certaines pièces qui reviennent, il y a même certaines scènes qui se répètent, notamment plusieurs scènes où Guerlain reçoit des coups de téléphone de la part de ses membres de sa famille. Il fallait que les couleurs soient les mêmes, sinon ça allait trop perturber le lecteur. Il fallait que ce mur-là, il soit toujours vert, parce que sinon on allait perdre le lecteur. Il fallait que cette rambarde d'escalier-là soit d'une certaine couleur. Donc ça a été un plan assez précis à mettre en place. Plan d'ailleurs qu'on voit un petit peu à la fin du livre, où il y a un carnet graphique où je montre un petit peu comment j'ai fait. Il fallait que le manoir, il fallait que le lieu dans lequel étaient ces personnages soit aussi vivant qu'eux. Et ça a été un petit peu compliqué à concevoir. C'est un huis clos, c'est la première fois que j'en fais un. J'aime beaucoup ce type de récit, mais c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à trouver un équilibre entre les personnages et le lieu dans lequel ils sont. Et je trouvais que la couleur était justement un joli pont à faire entre ces deux-là.
Est-ce que c'est une maturité dans l'écriture qui vous a permis de mener à bien Minuit passé, et qu'est-ce qu'elle va vous permettre pour les récits suivants?
Alors, je ne sais pas vraiment s'il s'agit de maturité. Généralement, je crois que j'aime bien écrire des histoires que j'aurais moi-même aimé lire. Et c'est peut-être ça qui fait que j'aime bien écrire mes histoires. Ensuite, je ne sais pas vraiment s'il s'agit vraiment d'expérience d'écriture, parce que quand je me suis lancée là-dedans, je savais pas du tout comment faire. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on recommence une BD, un récit, on a l'impression de recommencer de zéro. On ne sait plus comment écrire, on ne sait plus comment concevoir ces pages. C'est assez surprenant, mais c'est une expérience qui, je crois, que je vais devoir apprendre à assimiler à chaque début et fin d'histoire, on va dire.
Est-ce que la contrainte d'écriture, parce que en vous lisant, et notamment le plan que vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce que cette contrainte d'écriture n'a pas joué tout son rôle comme dans d'autres grands récits où on a des... Là, par exemple, un personnage qu'on entrevoit et qui est là, qui est présent, il y a ses corneilles... Comment jouez-vous avec la contrainte? Est-ce que vous avez envie de vous en fixer pour pouvoir explorer d'autres parties de l'écriture?
Je ne sais pas si... je crois que c'est pas... Je crois que c'est plutôt les contraintes qui viennent toutes seules. Je crois qu'en fonction de l'histoire qu'on a envie de raconter, je pense que les contraintes s'écrivent d'elles-mêmes. Pour celle-ci, je me suis fixé aucune contrainte, je les ai littéralement laissées venir à moi. C'était un choix de vouloir faire 3 chapitres, mais je me suis déjà posé la question de est-ce que ce deuxième chapitre, qui est un grand flashback, est-ce que je vais le disséminer dans le récit, ou est-ce que j'en fais un chapitre à part entière, ou est-ce que je l'entre-découpe? Donc il y a énormément de questions qui se sont posées là-dessus, et je crois que dès que j'ai des contraintes, j'essaye de les alléger au maximum, parce que pour moi, mon but premier quand je fais une histoire, j'ai envie de m'amuser, tout simplement. J'ai la chance de pouvoir faire ça, j'adore dessiner, j'adore raconter des histoires, et je veux juste m'amuser. Et je pense que si je me fixais en amont des contraintes, je crois que je serais assez malheureuse dans ma façon de raconter mes histoires.
Lorsqu'on avait discuté, c'était en 2020, sur le Jardin Paris, vous parliez donc d'une écriture assez chaotique où vous faisiez beaucoup de rajouts et beaucoup et vous enleviez beaucoup.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça avec Minuit Passé ?
Eh ben étonnamment, pas vraiment, parce que justement, c'est ce que je vous expliquais, c'était pour le jardin, j'avais vraiment l'impression d'être une jardinière. C'est-à-dire que j'étais dans mon jardin, je plantais toutes les graines que je voulais, et puis plus tard, je ramassais ce que j'avais semé, un petit peu au hasard, un petit peu au gré du temps. Pour Minuit Passé, ça n'a pas été le cas. Pour Minuit Passé, j'ai vraiment suivi un plan. Et je crois que j'ai peut-être préféré la façon dont j'ai écrit Le Jardin Paris. Parce que pour moi, Minuit Passé, c'était quelque chose de... À la fin, ça devenait technique. Et quand ça devient trop technique, ça me bloque un petit peu. J'ai été super contente de voir qu'il y avait certaines scènes qui se tenaient bien. Donc ça, j'étais contente. Mais contrairement au Jardin Paris, j'ai absolument pas pu enlever ou rajouter des scènes comme je le voulais. Si j'en enlevais, c'est parce que ça devait servir le récit. Si j'en rajoutais, c'est parce que ça devait compléter des explications. Tandis que pour le jardin, c'était vraiment au gré de mes envies, on va dire.
La relation à vos personnages, Gaëlle Genillet, est très intense. Comment ça se passe quand vous les dessinez ? Par exemple, on a parlé de Nicée et c'est sa façon de commenter, de donner des avis sur la situation de son père. Est-ce qu'il y a une difficulté à le faire parler, à lui donner des paroles plutôt inhabituelles ? Chez un enfant comme lui, est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti que là ça collait pas et puis modifier les dialogues
quand j'ai des dialogues qui me viennent, je crois que je les modifie rarement parce que s'ils sortent comme ça veut dire que c'est la bonne chose à faire. C'est comme dans une conversation, on ne réfléchit pas deux minutes avant de sortir la phrase qu'on a envie de sortir. Si je la réfléchis comme ça, c'est parce que ils ont parlé de cette façon-là. Quand vous dites que ma relation au personnage est assez intense, je pense que vous ne savez absolument pas à quel point vous avez raison. C'est des personnages que tous les personnages que je dessine, j'ai un lien assez fort avec eux. J'identifie ça comme si c'était, je ne sais pas trop comment expliquer, un vieil ami avec qui j'aurais une relation épistolaire. Je crois que c'est le sentiment qui se rapproche le plus de mes impressions quand je les dessine. D'ailleurs, c'est des personnages que je ne vais absolument pas abandonner parce que la suite pour moi, ce sera de faire appel à ces personnages-là dans d'autres univers. Ce sera toujours les mêmes personnages, mais des univers différents. Parce que je n'arrive pas à travailler sans eux. Et je pensais que c'était quelque chose qui allait me bloquer jusqu'à ce que je me dise que ben non, c'est pas grave, j'allais devoir faire avec. Donc, voilà.
Alors, en fait, les corneilles qui sont omniprésentes, qui vont se jucher sur l'épaule de Guerlain, c'est Guerlain et Nicée qui sont juchés sur vos épaules dans votre quotidien.
On peut dire ça comme ça. Je crois que vous avez raison. Il n'y a pas une seule journée où je ne pense pas à eux et aux personnages du jardin aussi. Pas une seule journée.
Ce qui est une très belle conclusion. Merci beaucoup Gaëlle Genillet. Alors je vais rappeler les caractéristiques de votre livre. Donc Minuit Passé est publié par les éditions Delcourt dans la collection Mirage. Les 204 pages de votre roman graphique sont au prix de 25,50 €. Et le livre a été imprimé en Allemagne. Très bonne continuation pour Guerlain et Nicée, qu'on aura plaisir à retrouver.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, on va terminer, puisque c'est la fin de l'émission. Il est 58. Alors, on refera sans doute un montage pour retrouver une fluidité comme un auteur essaye de faire régulièrement avec ses récits. Alors, juste une information importante. Eh bien, c'est la semaine prochaine, le 7 mai. Nous serons avec Élodie Durand et Mathilde Ramadier pour leur très beau récit sur la Belle de Mai, d'histoire de résistance. Et donc, très bon après-midi à tous. Oui, on va terminer. Oui, c'est ça. On va terminer en musique. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Et très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Je serai demain pour une nouvelle chronique. À demain.